Marcel Besonnet est une personnalité célèbre du paysage culturel français. Il débute une carrière de comédien de théâtre en 1966 et rentre à la Comédie-Française pour interpréter le rôle de Victor dans Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac. De 1979 à 1984, il est également professeur à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. En 1986, il est sociétaire à la Comédie-Française durant 7 ans. En 1993, il prend la direction du Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Il occupe ce poste jusqu'en 2001, année durant laquelle il accède à la fonction d'administrateur général de la Comédie-Française. Marcel Besonnet donne alors l'exemple d'un administrateur engagé pour la cause humaine. Ainsi, il fait entrer le premier comédien noir dans la troupe, Bakary Sangaré. Il renonce également à programmer une pièce de Peter Handke en réaction à sa participation aux obsèques du criminel de guerre Milosevic. Un des grands succès du mandat de Marcel Besonnet est sans doute l'adaptation des Fables de La Fontaine montée par Bob Wilson. Outre ses activités de comédien et d'administrateur de théâtre, Marcel Besonnet est aussi un metteur en scène connu et reconnu. C'est au titre de cette dernière activité que je le rencontre pour parler de sa dernière mise en scène, l'adaptation du roman populaire Baïbas. Marcel Besonnet, comment avez-vous découvert le roman populaire Baïbas?
C'est une amie qui s'appelle Cécile Falcon, qui est une agrégée de lettres, arabisante, qui est la fille d'André Falcon, ancien sociétaire de la Comédie Française, donc que j'avais rencontré. Et un jour, nous sommes allés à l'Institut du Monde Arabe parce que je souhaitais monter une œuvre qui relève de la culture arabe. Et donc, elle m'a fait découvrir le roman de Baïbars.
D'accord. Donc, comment l'idée vous est venue d'en faire une adaptation théâtrale?
Écoutez, on peut remonter un tout petit peu pour vous dire, pour mon intérêt déjà peut-être pour la culture arabe, il est ancien. J'ai toujours lu, notamment, j'ai fréquemment acheté ou les romans publiés chez Sinbad, ou la poésie, voire la poésie mystique. Enfin, j'ai eu tout cet intérêt, j'ai eu un intérêt constant. Et quand j'étais à la Comédie Française, par exemple, la Comédie Française a participé à l'année de l'Algérie, on a fait un hommage à Kateb Yassine sur la scène historique de la salle Richelieu, ce qui n'était pas rien. Par ailleurs, j'ai joué en Algérie aussi la Princesse de Clèves pour la réouverture du Théâtre National Algérien après les années de terrorisme. Et ensuite, j'ai été là, il y a quelques années, invité par la directrice du Centre culturel français d'Agadir qui m'avait demandé de faire un programme qui s'appelait « L'Orient et l'Occident de l'amour ». C'est-à-dire, c'était très intéressant. Et c'était un colloque qu'elle avait organisé à l'intérieur de l'université d'Agadir, avec des philosophes, des anthropologues, des psychanalystes. Et puis, donc, elle m'avait demandé de lire ces textes. Alors, je voulais rester dans la culture arabe. Je voulais rester dans la culture arabe pour une raison très simple, c'est que quand j'étais à la Comédie Française, avec mon ami Jean-Pierre Jourdain, on se demandait si on ne pouvait quand même pas monter de temps en temps des pièces qui ne soient pas notre culture. Mmh. Bien sûr, on monte d'autres pièces, mais elles sont de culture européenne, non ? Mmh. Mais on ne monte jamais de pièces chinoises. Pourtant, par exemple, Patrice Chéreau, au début de sa carrière, a monté des pièces chinoises. On ne monte pas de nos. Il semblerait que les Occidentaux soient moins intéressés par les formes théâtrales des autres cultures que ne le sont par exemple les Chinois par le théâtre occidental ou les Japonais, non ? Donc, c'est cette réflexion, disons, sur les grandes cultures qui m'a amené à réfléchir à la culture arabe. Et je dois, alors pour continuer, je suis un peu long, mais j'explique les raisons, j'avais gardé un souvenir absolument extraordinaire du film de Pasolini, Les Mille et Une Nuits. J'avais vu dans les années 70, Les Mille et Une Nuits de Pasolini, au festival, dans un cinéma grand public de la place Clichy, et là, d'abord, j'avais découvert avec enchantement cette œuvre, les interprètes, et aussi que le public était évidemment de culture d'origine, de culture dont la culture d'origine était arabe, et chantait en arabe toutes ses chansons. Et j'avais gardé, je dirais, dans mon cœur, ce moment comme ça d'émotion absolument extraordinaire, de rire, de chansons. Et je me disais, mais comment se fait-il qu'en France, on montre si peu, la culture arabe soit si peu présente? Il y a bien sûr la musique, hein, bien sûr on connaît l'architecture, on connaît les arts culinaires, mais il y a une absence, il y a eu peu de présence de la culture littéraire arabe. Donc, ce grand détour pour vous dire que, voilà, j'étais devant ce grand roman.
En tout cas, cette représentation théâtrale, elle a elle aussi connu une évolution, c'est-à-dire d'une sorte de lecture, ce qu'on a vu au musée du Louvre, à une vraie adaptation, à une vraie représentation théâtrale comme celle qu'on voit à Lyon actuellement.
Oui, alors la grande difficulté, si vous voulez, pour revenir un peu aussi en arrière sur la composition, c'est qu'évidemment, il y a 10 volumes qui sont traduits chez Sinbad et maintenant reprises par Actes Sud, qui sont l'œuvre de Jean-Patrick Guillaume et de Georges Boas. Alors ces 10 volumes constituent une partie de l'œuvre, parce que si on traduisait la totalité, ça ferait 60 volumes, hein. Je veux dire un mot de ces deux jeunes, ils sont moins jeunes maintenant, mais ils étaient de jeunes linguistes, je crois, amis avec le directeur du théâtre, le directeur du musée des arts et traditions populaires. Et puis ils ont vu chez lui ces fascicules qui constituaient ce qu'on appelle le roman de Baybars. Et ils se sont mis en tête de le traduire. Ces 10 volumes, donc pour traduire ces 10 volumes, ça leur a pris une quinzaine d'années. Donc c'était devant ces volumes que j'étais. Alors évidemment, c'est extrêmement complexe. Je veux continuer de parler un tout petit peu de ça, parce que le héros principal est un personnage historique réel, hein, dont je ne vais pas retraduire ici l'histoire, mais dont on peut dire qu'il était un grand chef de guerre, qu'il a tué son roi, son concurrent direct, qu'il a fait prisonnier Saint-Louis à la bataille de Mansoura, et qu'il est resté dans la mémoire, il est resté dans l'histoire comme à la fois ayant pris les dernières places franques et repoussé les Mongols, ce qui n'est pas rien. Donc, effectivement, les conteurs s'emparent de cette histoire, hein, il y a d'abord... ils s'emparent de cette histoire et ils en font un conte. Et je dirais que le plus difficile pour moi, ça a été de me rendre compte que c'était un conte. Donc, avec toutes les caractéristiques qu'on peut trouver, par exemple, dans la morphologie des contes de Prop, hein, cet ouvrage que j'avais lu dans ma jeunesse m'est revenu en mémoire, ça a été décisif quand j'ai compris qu'il y avait un héros, un anti-héros, une dame bienfaitrice, il y avait une prophétie, il y avait un roi, il y avait des auxiliaires, des actions, et j'avais aussi lu, parcouru, parce que c'est... La thèse de Francis Gall, qui m'avait aidé dans la compréhension. Donc voilà, on en était là quand je me suis mis en tête de faire cette adaptation.
D'accord. Pourquoi, c'est une question vraiment personnelle, pourquoi avez-vous choisi une femme comme Hakawati, conteur, et comme Mouazzem?
Oui, alors si vous voulez, alors, donc... Il faut, alors maintenant qu'on a parlé on a parlé du personnage historique, on a bien distingué que c'était un conte, voilà. il fallait constituer une équipe. Ça n'avait pas de sens, ça n'était pas ma culture. Alors la première personne que j'ai rencontrée, je me suis rendu quand même en Syrie. Quand j'ai lu le principal du roman se passe beaucoup à Damas, et donc je savais qu'il y avait à Damas une école d'art dramatique qui était dynamique, qui était dirigée par une personne éclairée qui s'appelle Madame Anan Kassab Assad.
Ah oui.
Et donc je me disais, au moins je vais aller poser la question à cette directrice d'école, savoir si ce projet est intéressant. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, elle m'a dit oui, c'est intéressant. Elle préparait, elle était directrice à l'époque de Damas, capitale arabe de la culture, c'était donc en 2008. Elle me disait, si vous aviez été plus près, j'aurais pris aussi ce projet. Mais donc, vous pouvez y aller. J'ai été soutenu par le directeur du centre culturel de l'époque et aussi par le conseiller actuel qui est Laurent Gillard. Donc, toutes ces personnes m'ont dit que je pouvais y aller. Et j'ai rencontré Ala Omran, qui est donc une comédienne syrienne de renom, et qui m'a dit que oui, elle était intéressée. Alors, à partir du moment où j'avais... J'irais une collègue, une camarade syrienne, qui est par ailleurs francophone et qui travaille souvent en France, intéressée, le projet pouvait démarrer. Et vous savez, le problème, le problème du théâtre, c'est souvent, quand on prend des textes anciens, il y a beaucoup plus de personnages masculins que de personnages féminins. Donc, j'ai cherché à composer une petite troupe où il y a autant de travail pour les femmes que pour les hommes.
Et en réservant la place d'honneur à la femme.
Voilà, en réservant la place d'honneur à la femme, je lui ai dit, mais c'est très bien, on va changer un peu les choses. J'avoue que je lui aurais même fait, moi, jouer le rôle de Baïbars si je ne m'étais pas rendu compte que quand même on ne pouvait pas à ce point toucher à Baïbars. Et donc voilà, c'est naturellement qu'on a pensé lui donner ce rôle aussi très évidemment éminent.
D'accord, vraiment, moi j'étais enchantée.
Alors pourquoi chante-t-elle aussi le Coran ? Parce que comme vous l'avez remarqué, elle le chante remarquablement.
Oui,
donc
vrai.
La question c'était de se poser, je voulais qu'il soit admirablement chanté. Le jeune comédien qui joue Baïbars est rompu aux arts martiaux. Lui, il est libanais.
J'ai reconnu ça.
Et lui, si vous voulez, vraiment, quand j'ai fait sa rencontre à Beyrouth, je me suis dit, ah voilà, lui, il peut représenter le guerrier. Ouais. Mais comme notre héros, c'est un parfait guerrier, c'est un justicier, voilà. C'est un homme d'honneur, et c'est aussi une personnalité, je dirais presque mystique, je pensais que le seul homme ne pouvait pas être tout ça, et que donc, si je n'avais pas pris Ala Omran, si Ala n'avait pas chanté remarquablement le Coran, à ce moment-là, j'aurais pris un des grands enregistrements du Coran qu'on peut trouver. Il y a eu de grands chanteurs. On entend rarement le Coran bien chanté en France. On l'entend toujours, comment dire, dans des reportages sur le Moyen-Orient où il est crié dans les minarets, sur les villes, comme ça. Et c'est une espèce de cri sur la ville, alors que on ne se rend pas compte à quel point ça peut être beau.
Une composition absolument magnifique.
Absolument. Et comme je dirais, ça peut ressembler à notre chant baroque. Enfin, ça peut arriver à des degrés d'émotion. C'est ça pour les amateurs de musique. Donc, qu'on imagine mal. Et d'ailleurs, là, je peux le remarquer, parce que maintenant on joue depuis un certain temps, la salle est saisie.
Absolument.
Et c'est vrai qu'au cœur de ce conte, il y a quand même la mystique. C'est quand même au centre du cercle, il y a la mystique. Et puis alors tout autour, évidemment, ses capacités de justicier, de guerrier. Vraiment.
En tout cas, il y a une autre femme, vous savez, dans la société arabe qui a chanté merveilleusement bien le Coran. C'est la diva égyptienne.
Voilà, absolument.
Avant de commencer sa carrière.
Absolument.
Elle les chante donc, si bien.
Voilà. Et elle était
très amie
très amie avec ce grand récitateur de Coran. Voilà.
Oui.
C'était tous les deux des stars.
Absolument.
Et on les voit, et on n'imagine pas le degré de tolérance qu'avait atteint la société, au Moyen-Orient dans les années 50, où le grand chanteur du Coran était dans les avions avec cette grande Oum Kalsoum.
Qui a chanté le Coran et l'amour.
Exactement.
L'amour physique.
Exactement.
Même.
Donc, si vous voulez, c'est tout à fait une façon de. Vous avez tout à fait raison de rappeler ça, parce qu'il n'y a pas de raison que les hommes l'oublient, les hommes et les femmes.
Alors, du mystique, justement, j'arrive à une autre question, l'homosexualité. L'homosexualité est patente dans les trois volumes, les trois premiers volumes de Baïbars. Et vous l'avez bien rendu dans la représentation théâtrale. Pensez-vous qu'à Damas, où il est prévu une représentation, que cela sera bien accueilli, vu l'ambiance de bigoterie, justement, générale dans laquelle baigne le monde arabe ?
Écoutez, l'homosexualité, puisque elle... Elle est amusante. Mmh. Elle est allusive et elle est amusante. Elle est dans ce rapport maître et serviteur, mais c'est vrai qu'elle est un peu nommée. Mmh. Alors je ne sais pas du tout comment ça sera reçu. Elle n'a aucune provocation, elle est gaie, elle est joyeuse, je ne sais pas. Pour moi, elle est poétique. Donc, je ne me suis pas posé la question. Je pense qu'elle n'a...
Voilà. Le dialogue mérite d'être lu, d'ailleurs. Si on avait le temps, on l'aurait lu. Justement, ce dialogue d'allusion entre Baybars et et Hartman.
Oui.
Sur ce jeu-là.
Parce qu'à un moment donné, effectivement, le héros recrute un palefrenier.
Voilà.
Et il dit, je m'occuperai de tes chevaux pendant le jour et de toi pendant la nuit.
Voilà.
Bon, grosso modo, ayant dit ça, on a dit la totalité de ce que représente le... On a tout dit. Mmh. Et en même temps, on l'a dit de façon tellement amusante.
Très agréable en tout cas.
Ouais, ouais.
Alors, durant cette représentation, on a l'impression que la complexité du personnage de Shiha,
ouais,
qui est une clé de voûte,
ouais,
du roman tout entier,
ouais,
n'a pas été rendue.
Non.
Pourquoi ?
Ben, on ne peut pas tout faire. Dans une représentation théâtrale, on ne peut pas tout faire. Et donc, si vous voulez, si je voulais rendre compte un peu de la tonalité générale de l'œuvre, il fallait d'abord faire le roman d'initiation. C'est-à-dire, comme dans tout roman d'initiation, il est petit, il traverse des étapes et il va devenir grand, il va devenir un homme. Ça, c'est le roman d'initiation. Mmh. Après, il y a le roman d'aventure. Mmh. Ensuite, il rencontre son ennemi principal. Il est enlevé. On va à Gênes. On découvre à Gênes le monde chrétien. On revient. Il y a à nouveau la guerre. On évoque la guerre entre les Francs et les Arabes. L'œuvre prend une dimension épique à certains moments. Dans le roman, elle existe. Mmh. Elle existe dans des fulgurances. Mmh. Ici, au théâtre, on est obligé de l'élargir un petit peu pour qu'on entende cette tonalité-là. Et évidemment, on arrive à ce personnage de Shia, dont les spécialistes disent que, passé le roman de Baybars, qui est le noyau premier, le reste du roman se développe parce qu'il y a l'irruption de ce nouveau personnage, d'un deuxième personnage principal, c'est Shia. Alors pendant tout un temps, j'ai essayé de le faire exister, puisqu'on l'appelle le maître des ruses. Et autour de ça, à l'infini, vont se greffer des intrigues. Mais c'était trop. Il n'y avait pas le temps, en 2h30 de spectacle, de faire exister ce Shia, de lui donner sa dimension. Donc il est présent là, mais il est présent là surtout pour raconter l'histoire de Jawan. Il est là pour raconter l'histoire de Jawan, mais il n'est pas déployé. Mais alors si vous voulez... Vous voyez, en parlant avec Georges Boas, il m'indiquait tout à fait une autre œuvre. On pourrait faire une soirée comme celle consacrée à Baybars, consacrée à Shia. On pourrait en faire une consacrée à Maharouf aussi.
Tout à fait.
On pourrait faire 6 ou 7 spectacles. Et avec 6 ou 7 spectacles, on aurait commencé un peu à faire le tour de l'œuvre. Là, c'est vraiment le début. Mmh. Hein. Mmh. À d'autres de continuer.
Il y a une question qui peut venir dans ce sens-là. D'abord, pourquoi avez-vous utilisé des masques ? Est-ce que c'est une simple économie d'acteur ? Une allusion, un attachement, par exemple, au théâtre grec ou une autre symbole ?
Non, si vous voulez, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que si vous voulez... Les masques ont quelque chose... Le conte, c'est proche du théâtre, mais ce n'est pas tout à fait le théâtre. Mmh. Hein, le théâtre de masque est un théâtre tout particulier aussi, qui renvoie à la marionnette. Donc, c'est des formes de théâtre qu'on peut appeler archaïques, appelons-les comme ça. Mais c'est en même temps la nécessité, parce qu'une fois que vous avez la conteuse, vous avez un groupe de 9 personnes, vous enlevez la conteuse, vous l'enlevez Baybars, parce qu'eux, ils sont tout le temps là, il vous en reste 7. Et vous avez, pour rendre un petit peu compte de la prolifération du monde, autour du personnage principal, vous avez des centaines de rôles. On en a conservé 50, et donc pour pouvoir jouer 50 rôles, il faut évidemment prendre des apparences Et d'où l'utilité des masques qui nous ont déjà permis de il y a, je crois, 7 ou 8 masques, ça nous a permis, ou 9 masques, ça nous a permis de traiter déjà de 9 personnages supplémentaires. Donc, vous rajoutez à ça des postiches, des rôles moins importants, ou une casquette, un petit chapeau, signifie qu'on a changé de personnage, et comme ça, on est arrivé à peu près 50 personnages.
D'accord. Alors, moi j'ai une question qui est relative à l'œuvre elle-même. Pourquoi vous avez choisi de sauter 50 volumes pour terminer par le découpage de Jawan au lieu de terminer, comme dans le volume 10, en bouclant Jawan dans la tour de l'église d'or? Cela aurait laissé le champ ouvert à une autre pièce de théâtre.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison d'ailleurs. Vous avez raison, pourquoi on est allé à la mort de Jawan,
voilà. Hein,
on n'y est pas allé comme ça. Il m'a semblé que c'était mieux d'aller à la résolution finale, c'est-à-dire à la mort de l'ennemi, qu'on resterait plus dans la forme du conte. Alors, j'ai fermé, je dirais, le conte, puisque l'ennemi principal du héros meurt, alors que j'aurais pu laisser le conte ouvert en le laissant dans la tour et dans son cylindre en or.
Et du point de vue théâtral elle-même, il y a une tour à dresser, il y a du glingling, l'air qui rentre, l'air qui...
Il y avait peut-être quelque chose à faire. Il faut reconsidérer ça. Non, tout ça a été tellement... J'ai pensé à un moment, mais c'est dans le 10e volume, ça.
Oui.
Mais je vais vous dire aussi pourquoi. C'est que finalement, quand on le lit, c'est très impressionnant, mais c'est très bref, c'est très court. Mmh. Et donc, je n'ai pas trouvé comment le théâtraliser. Il y a très peu de dialogue pour autour de cette action qui consiste... Je le dis pour les personnes qui nous écoutent. Il est mis dans un cylindre, hein, au-dessus d'une église, je crois.
L'église de Saint-Paul.
Voilà, l'église de Saint-Paul à...
À Rome.
À Rome, oui. Il est au-dessus de Saint-Paul à Rome. Et il a été condamné par une sorte de tribunal pénal international.
Tout à fait, qui a réuni les musulmans et les chrétiens.
Voilà, et il est dans un espèce de dôme, dans un tuyau, où il cuit sous le soleil et
dans
il a
journée.
Froid la nuit. Mmh. Voilà. Mais alors, représenter Saint-Paul, représenter le dôme, je n'ai pas trouvé. Il aurait peut-être fallu faire une petite chose miniature. On essaiera.
Voilà.
On essaiera.
Alors, il est prévu une représentation à Damas, nous l'avions dit. Allez-vous maintenir le choix linguistique adopté en France, c'est-à-dire moitié arabe, moitié français?
Oui, oui.
Ou allez-vous, je finis ma question si vous permettez, allez-vous tout mettre en arabe?
Non, alors justement c'est une question qu'on s'est posée avec Marie Elias. Vous la connaissez, Marie Elias?
Mais non.
Voilà. Et donc elle traduit beaucoup du français, et alors elle me disait non, conservons cette version. Pour information, cette version elle est donc en arabe, puisqu'il y a par exemple Mohamed Al-Rachi ne parle qu'arabe. Il a quelques phrases en français. Il joue la mère d'Othman, il joue justement le Cadi Salah el-Din.
Le père de Ibrahim.
Voilà. Ouais. Donc il joue des rôles importants, il les joue en arabe, si bien que la représentation est à la fois en français et en arabe, et quand elle est en arabe, elle est surtitrée. On va adopter ce principe, on ne va pas changer de version. Et on va faire tout sera simplement surtitré en arabe,
en sens inverse que vous avez fait en
Syrie.
France.
Voilà.
D'accord.
Non. On va garder la même version et on va. Oui, voilà. On va.
C'est ce que je voulais dire parce qu'on a rendu en arabe le français.
Voilà.
L'arabe en France et on rendra en arabe le français.
Voilà.
À Damas.
Voilà.
Est-ce qu'il est prévu dans d'autres villes aussi ou dans d'autres pays arabes?
Alors il est question, on est en train de parler, alors il est pas, le Liban n'est plus exclu, la Jordanie, peut-être la Palestine, et pour l'instant c'est tout.
Pour l'instant c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez eu des retours du public ?
Oui. Oui, si vous voulez, j'ai conçu ce spectacle, je vous l'ai dit, parce que je pensais que les retours qui m'ont le plus intéressé émanent évidemment des spectateurs dont la culture d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents maintenant, on peut dire, presque de leurs arrière-grands-parents, peut-être arabes. Et là, dans la représentation de dimanche, beaucoup de personnes sont venues en famille, et notamment des mamans qui portaient leur foulard, et donc qui comprenaient aussi des paroles en arabe, et j'ai été touché de ça. Je crois que c'est très important pour une partie de la jeunesse française, dont la culture est double, française comme la mienne, et arabe, qui a cette chance d'une double culture, de voir des œuvres de l'autre culture, je dirais.
En tout cas, c'était une très très belle représentation théâtrale. Et pour terminer, je voulais vous remercier.
Mais c'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on n'a rien oublié. Non, écoutez, je vous remercie beaucoup.